Une histoire particulière. Le 11 mars 1944, en pleine occupation allemande, une concierge se plaint d'une épouvantable fumée noire qui empeste toute la rue et s'échappe d'une habitation voisine. C'est le numéro 21 de la rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est là que demeure le docteur Marcel Petiot. Une macabre découverte s'ensuit, des restes humains provenant de 27 corps. Sous le prétexte d'un faux réseau de résistance, Marcel Petiot a tiré chez lui des personnes désirant fuir. Avant de les tuer, il s'emparait de leurs effets personnels. Il est arrêté le 31 octobre 1944, 7 mois après la découverte du charnier. Comment un homme isolé a-t-il pu faire autant de victimes? Avait-il des complices? Le docteur maléfique était-il fou? Beaucoup de questions restent posées, auxquelles Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet vont tenter de répondre dans ce second épisode.
L'affaire ou le procès du docteur Petiot sont une des affaires les plus emblématiques ou retentissantes du XXe siècle. C'est l'incarnation du mal, une sorte de mal absolu. Je crois qu'il y a Colette qui assistait au procès, a parlé du cuisinier du diable, si je ne me trompe pas. Il y a la mise en scène particulièrement théâtrale de la cour d'assises, qui dans l'affaire du docteur Petiot, parce qu'on mettra les valises des victimes des disparus en scène, au milieu de la cour d'assises, en fera la scène la plus spectaculaire qui soit de l'histoire des assises françaises. Il y a un tueur en série, il y a toutes ces choses accumulées qui font que du docteur Petiot, les circonstances politiques évidemment, le caractère idéologique sans doute partiellement mêlé avec beaucoup d'autres choses de ces meurtres, tout cela en fait une affaire extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire.
Il faut faire attention à chaque fois qu'on parle des tueurs en série. Aucun ne ressemble à aucun. Néanmoins, voilà un homme qui a tué un grand nombre de personnes dans des circonstances, il est vrai, particulières, qui sont celles de la guerre. Et il y a au moins un élément, si vous voulez, fondamental, c'est cette absence totale de toute moralité, de tout sens éthique, et une aptitude à l'organisation et à la finalisation de ses actes.
Donc les pompiers découvrent le charnier. Bon, on imagine la foule, hein, enfin quand même. Bon. La police arrive. Petiot arrive sur la scène du crime et repart comme une fleur. Et du coup, il disparaît.
Voici notre bulletin d'information de la mi-journée. La police a découvert cette nuit, rue Le Sueur, un énorme charnier enfermant les restes de 20 à 30 personnes. L'immeuble appartient à un médecin, le docteur Marcel Petiot. Celui-ci est en fuite.
On va arrêter à Auxerre le frère de Petiot. Il est dénoncé par un ami commun qui s'appelle Nézondet et qui déclare que Maurice Petiot a tout su. Il est exact que Maurice Petiot a livré 400 kilos de chaux, mais il déclare qu'il n'a jamais su pour quel usage. On ne sait pas. On arrête Madame Petiot et on va à Courson, là où Petiot a un immeuble. Et qu'est-ce qu'on trouve? 49 valises qui contiennent de tout. Et c'est Petiot qui les a apportées là. Et alors dans ces valises, il y a 90 robes, 28 complets d'hommes, 57 paires de chaussettes, 12 pantalons, 11 vestes, 104 chemises, 61 caleçons, 93 chemises de femmes, 18 manteaux de formes différentes.
L'affaire Petiot.
320 mouchoirs, 14 tailleurs de dames, 120 jupes.
L'énigme de la folie humaine.
100 combinaisons, 26 sacs à main, 77 paires de gants, 16 pyjamas, 21 poudriers, 16 bâtons de rouge à lèvres, 22 brosses à dents, une culotte de pyjama d'enfant.
Par Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet.
Et Petiot, on ne sait pas où il est. On ne le trouve pas.
Et il va se faire passer pour un chef de la résistance. Il paraît que il interroge des suspects, etc., mais avec beaucoup d'à-propos et de professionnalisme. Hein. Il est très apprécié de ses supérieurs.
Claude Quétel.
Et alors il se fait piéger de la façon la plus bête qui soit, ce qui prouve que là aussi, il n'a pas quand même toutes ses facultés mentales, parce que c'est un journaliste qui le piège. En disant « Petiot, soldat du Reich », en le faisant passer pour un ami des nazis. Et Petiot, au lieu de rester bien tranquille dans sa caserne de je sais plus où, là, à Vincennes, où il a déjà pris le rang de capitaine, le capitaine Valéry, au lieu de ne pas broncher, il exerce son droit de réponse. En disant, mais pas du tout, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Incroyable. Et il se fait avoir comme ça.
C'est ici, dans son repère secret, que le docteur Satan a arraché à la vie au moins 30 innocentes victimes, hommes, femmes et peut-être enfants. Vision de cauchemar. Le médecin légiste essaie de faire parler de pitoyables restes trouvés dans une fosse à chaux. pour la plupart inidentifiables désormais. De quelle amère détresse, de quels affreux cris de souffrance ces murs ont-ils été témoins? Crime crapuleux, crime sadique, le mystère reste entier. Toujours est-il que Marcel Petiot devra porter le titre monstrueux de plus grand assassin du siècle.
Il tue pour voler. Mais je ne suis pas du tout sûr que... Je suis même sûr du contraire que Petiot ait pu éprouver un plaisir à tuer ses victimes. Il les tue pour les détrousser, tout simplement.
Ce qui semble, mais moi je ne suis pas historien, c'est qu'il n'allait pas dans des hôtels 5 étoiles, il ne s'achetait pas des costumes très chers, il n'avait pas des maîtresses coûteuses, il avait son petit vélo pour faire ses visites. Probablement sa jouissance c'était d'accumuler des revenus. En tout cas, ce n'était pas gagner de l'argent pour vivre de façon particulièrement démonstrative. Mais cette accumulation d'argent... C'est aussi, si je veux, je peux. C'est aussi la toute-puissance. C'est surtout et avant tout l'accumulation d'un pouvoir. Et ce qui motive le tueur en série, contrairement à ce qu'on raconte tout le temps, ça n'est pas la satisfaction et la jouissance de procurer de la souffrance à l'autre, mais c'est plutôt... la satisfaction d'être totalement indifférent à cette souffrance, à l'égard d'un autre chosifié. Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de l'œilleton du docteur Petiot, justement avec ce préjugé que peut-être c'était pour lui une jouissance perverse de voir agoniser ses victimes. Je n'en suis pas certain. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il surveillait l'évolution des opérations pour voir s'il était encore vivant ou s'il était mort et qu'il pouvait se débarrasser du corps. Ce qui peut-être est encore plus cynique.
Donc, est-ce que Petiot était fou ou coupable? C'est tout le fond de l'affaire, parce que est-ce que être fou vous exonère forcément de toute culpabilité? Ça, voilà, et encore une autre question.
Qu'est-ce qui différencie l'expertise de Léniel Lavastide des autres?
J'avais très mal à la tête ce matin.
C'est qu'il a le souci de rassembler dans un fil diachronique...
Sur interrogation, oui, je cherche à inventer. C'est dans ma famille.
Et non pas simplement dans une photographie synchronique. Hein. Il a le souci de reconstituer le parcours de l'intéressé dans sa complexité.
Je suis très distrait.
Parce que si vous photographiez Petiot à un moment donné, mélancolie, neurasthénie, déséquilibre psychique, amoralité...
L'état physique de Petiot est beau. Il déclare bien se porter, avoir bon sommeil et bon appétit. L'examen physique ne révèle aucune lésion du système nerveux.
Donc, vous pouvez avoir comme ça des photographies extrêmement différentes. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'y arrêter et d'essayer de reconstituer le fil conducteur et, si je puis dire, de mettre tous ces éléments du puzzle dans un ensemble. Et c'est ça que fait Léniel Lavastide, et c'est ça qui est intéressant dans l'expertise, vous comprenez ?
Une bonne expertise psychiatrique, c'est avant tout de la bonne clinique, c'est-à-dire de la clinique bien comprise, et donc un examen bien fait.
Magali Baudon-Bruzel.
Une recherche sémiologique sérieuse à tous les niveaux, c'est-à-dire le diagnostic, c'est la maladie psychiatrique, c'est la problématique de personnalité, c'est la réalité ou pas d'une problématique addictive. Déjà, on a trois niveaux, si vous voulez, pour bien comprendre à qui on a affaire. Et puis, premièrement, le diagnostic. Et deuxièmement, c'est ce qui est central, c'est l'imputabilité. C'est-à-dire, c'est le lien entre ce qu'on peut trouver du psychique, c'est-à-dire le diagnostic dans toutes ses finesses, et les faits, c'est-à-dire le lien entre, plus précisément, la commission des faits, l'état psychique au moment des faits. Ce que démontre l'affaire du docteur Petiot, c'est qu'à des moments donnés de déhiscence de l'histoire, peut s'y glisser des folies humaines. Je dis folie et je ne dis pas psychose, parce que je ne crois pas, je ne pense pas, ce n'est pas une croyance, et c'est établi par finalement justement l'étude sémiologique. Le docteur Petiot ne présentait pas une psychose, au sens d'une psychose schizophrénique ou d'un délire paranoïaque, mais il s'agit bien d'une folie humaine.
Qu'il ait traversé des moments de neurasthénie, comme on disait à l'époque, des moments de mélancolie, des moments de délire d'invention.
Je cherchais la façon de régler l'aspiration et la pression dans la même pompe. Je construis un appareil dans ce genre.
Pourquoi pas ? Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de repérer ce qui fait l'unité de la personnalité, et cette unité, elle est singulièrement kaléidoscopique. Mais ce qui lui permet de tenir, c'est justement ce clivage qui fait qu'il va être pseudo-adapté, pseudo-organisé, etc., etc. Et surtout, alors là, quand vous lisez tous ces courriers...
Il affirme n'avoir jamais eu le moindre ennui en clientèle et se montre fort surpris quand on lui rappelle la mort de Mademoiselle Hans.
C'est un type qui arrange les situations dans son intérêt, mais de manière tout à fait extraordinaire, c'en est presque drôle.
Quant au trafic de stupéfiants, il dit que c'est un Allemand qui l'en a accusé par vengeance.
J'ai retrouvé un texte.
Dans l'ensemble, le docteur Petiot paraît être un déséquilibré constitutionnel amoral, de comportement social défectueux. Le 2 août 1935, le docteur Delmas fait le diagnostic de cyclothymie.
Imaginez-vous que c'est un texte qui ne date pas d'hier. Quand je travaillais en histoire de la psychiatrie, je me souvenais d'un médecin qui s'appelait Ulysse Trélat, qui avait écrit en 1861 un livre sur la folie lucide. Et le mot « la folie lucide » m'a interpellé. Ces malades sont fous, mais ne paraissent pas fous, parce qu'ils s'expriment avec lucidité. Ils sont fous dans leurs actes plutôt que dans leurs paroles. Ils ont assez d'attention pour ne laisser échapper rien de ce qui se passe autour d'eux, pour ne laisser sans réponse rien de ce qu'ils entendent, souvent pour ne faire aucune omission dans l'accomplissement d'un projet. Ils sont lucides jusque dans leur conception délirante. Leur folie est lucide. Moi, je crois que Trélat répond parfaitement au cas Petiot. C'est un fou lucide. Et alors, dans sa folie, dans la tête de Petiot, je crois qu'il y a une abolition totale entre le bien et le mal. Et tout cela fait que, quand il va se lancer dans sa carrière de meurtrier, il ne va pas se sentir plus coupable, répréhensible à la limite, que lorsqu'il vole des bidons d'essence à Villeneuve-sur-Yonne.
Emmanuel Pierra, vous dites dans votre livre que c'est un assassin hors du commun, mais aussi un accusé hors du commun.
Oui, parce que le personnage est quand même extrêmement fascinant. Quand il est appelé lors de l'incendie, qui lui permet de découvrir en 44 la boucherie, en tout cas la disparition de ses clients, de ses patients, quand il est appelé quand même, il va jouer avec le feu, c'est le cas de le dire. Il se présente sous une autre identité sur le lieu du crime pour voir ce qui se passe. On ne sait pas le nombre de victimes, réellement. Il en revendique plus et on ne sait pas quelle est la vérité. S'il est dans la mythomanie ou d'espèce de confusion mentale, on n'en sait rien. On a le nombre de valises, on a à peu près le nombre de gens dont on sait à coup sûr qu'ils sont venus, qu'ils sont consultés, qu'ensuite on ne les a plus vus, mais voilà. Et Petiot ne veut pas plaider à la folie, je ne pense pas, et son avocat ne le veut pas non plus.
On aurait pu imaginer que ça aurait pu être une des solutions, vu son passé et vu les expertises qu'il y avait précédentes, pour ne pas aller à la guillotine.
C'est une possibilité, mais c'est une possibilité qu'il ne choisisse pas. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait envie de terminer sa vie dans un asile. Quand il est en prison, le docteur Petiot, il écrira un livre pour une martingale, pour gagner au jeu.
Le thème de cet ouvrage, c'est quand même le hasard vaincu, qu'il signe effectivement de « En pleine santé » 1945. Donc « En pleine santé », sachant qu'il était à la santé.
Anne-France Sérigliani.
Il élabore une théorie scientifique qui est comment vaincre le hasard pour gagner dans tous les types de jeux. Les petits chevaux, les dames, les échecs, et donc pour gagner de l'argent.
Donc il n'est pas dans une logique de je m'arrête, il parle d'argent. Comme tous les grands tueurs en série, hein, comme Landru qui disait qu'il ne tuait pas les femmes pour les tuer, mais qu'il les tuait pour les voler. Alors qu'évidemment, c'était d'un autre ordre. Donc le docteur Petiot, il n'est pas, dans une logique de « je vais terminer sans un sou à l'asile et puis accepter mon sort ». Ça ne fait pas partie de son registre.
Ceci est un livre sérieux que j'écrivis pour m'amuser. En le lisant sérieusement, il vous amusera. Et vous gagnerez avec certitude quelque chose. Ce dessin, hein, il y a des femmes, des hommes.
Il y a l'oméga, l'aspect lunaire, il y a un petit diablotin avec son petit trident.
Ceci est un livre sérieux que j'ai composé pour m'amuser, car je suis un de ces vicieux que le travail amuse.
Donc cette œuvre est véritablement magistrale parce qu'elle résume l'homme.
L'homme a été créé pour jouer à bricoler, à faire l'amour, à lutter. Mais il a perdu les règles et du même coup, le goût du jeu. Et comme il ne jouait plus assez, on a voulu le forcer. Le bricolage s'appellera le travail avec la sueur obligatoire.
Ses talents, ses folies, son intelligence scientifique, son érudition.
L'amour devint fête des enfants. La lutte devint la guerre. Alors il s'est mis à tricher et à perdre. Je ne vais pas vous apprendre à tricher, je vais vous apprendre à gagner. Lorsqu'il est possible, au jeu, dit mensongèrement, le hasard.
Et donc ces martingales qui sont des calculs de probabilité, vous avez des pages entières, comme vous le voyez, d'équations, de probabilité, de chiffres.
Quand vous voyez le docteur Petiot dans les images qu'on a du procès, il tient beau, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'il est debout, il se défend. Il n'est pas un homme prostré comme on a certains assassins ou certains criminels dans des box qui sont résignés, pleurnichent pendant toute l'audience et attendent leur sort. Il se bat. Et Florio va dans ce même sens. Il a un avocat combatif. Il n'a pas choisi un avocat qui est un avocat habitué, on va dire, à demander simplement l'indulgence. C'est un avocat qui joue à pile ou face, qui dit c'est l'acquittement. Si ce n'est pas l'acquittement, bon, bah, ça sera la condamnation. Et si c'est la condamnation, forcément, c'est la mort à l'époque. Donc Florio, il est cohérent avec son client. Et ils partent au combat parce que, par ailleurs, il y a cette difficulté des témoins ayant assisté au meurtre. Il n'y a pas de témoins. Il y a la possibilité d'un doute.
On l'accuse de 27 meurtres. Jamais un seul, encore une fois, en flagrant délit, ni la main dans le sac. Mais lui, il dit, ah non, ce ne sont pas les miens. Lui, il en revendique 63. Lui, il dit que oui, effectivement, moi, j'ai exécuté des gens parce que je suis un chef de la résistance. Alors, la folie de Petiot éclate, tout particulièrement au moment du procès. Il raconte n'importe quoi. Il dit qu'il avait inventé un rayon de la mort pour tuer ses pas les victimes, les boches, les collabos. Il déraille complètement.
Mais les témoins le trouvent très bien. C'est le bon docteur. Il est le bon docteur Petiot.
Bonjour, bonsoir.
Archivina.
Ça va.
Et 2005.
Il me donnait même des soins.
J'allais le voir dans son cabinet quand j'avais besoin d'un service. Il a d'ailleurs soigné ma mère pendant 2 ans et j'ai encore en ma possession une ordonnance du docteur Petiot. Je n'ai que de bons souvenirs du docteur Petiot.
Il ressemblait à quoi physiquement ?
Eh bien, vous savez, il était pas d'aspect formidable. Il était
des yeux qui regardaient par moments. Il s'arrêtait de parler, il regardait dans le vide et il vous fixait. On ne savait jamais. Et reprenait le cours de la conversation comme si rien ne s'était passé.
Il avait un physique un peu anguleux. Un peu anguleux, oui. Mais il était doux à causer. Doux à causer.
Pour moi, c'est un type formidable et très sympathique.
Il y a une obligation dans une cour d'assises qui est de présenter les pièces à conviction. Et pour l'affaire du docteur Petiot, il y a tellement de pièces à conviction que ce sont notamment ces 70 et quelques ou à peu près valises que l'on retrouve qui permettent d'estimer peu ou prou le nombre de victimes, on ne sait pas exactement. Et il y a un mur de valises contre un des murs de la cour d'assises qui domine totalement la salle. Des pièces à conviction, encore une fois, ce sont des preuves, mais des preuves, comme leur nom l'indique, très particulières, parce que ce sont des pièces sur lesquelles doivent se forger l'intime conviction des jurés.
Et puis c'est la plaidoirie de Maître Florio. Il plaide 6 heures. Et disons que c'est sa plus grande plaidoirie.
Comment ce procès s'achève ?
Le procès s'achève avec un résultat qui est globalement attendu. Je pense qu'il n'a pas surpris Florio.
Enfin se termine cet interminable procès, soupire Albert Pall dans Combat. Ce procès où Petiot a dominé les débats en maître.
La peine capitale, donc c'est la guillotine.
Pierre Cise, dans le Figaro, déplore le manque de dignité de ce dernier jour de procès. Aujourd'hui, dit-il, c'est la cohue des grands jours de verdict capital, c'est-à-dire une des plus indécentes qui se puisse observer. La foule est accourue pour voir la mort descendre sur Petiot.
On est dans une époque où il n'y a pas d'appel possible. Vous êtes forcément exécuté dans les jours qui suivent. On ne vous donne pas de date précise, mais vous savez que c'est fini, quoi.
Henri Magnan, dans Le Monde, approuve le verdict. Cette affaire, dit-il, devait à la vérité, mais aussi à la morale, de se terminer ainsi.
C'est fini. Il y a un pourvoi en cassation possible s'il y a des problèmes de procédure, mais il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de pourvoi, donc ça s'achève, c'est la mort.
Soulagement aussi de Jean Richard dans L'Aube. Petiot, dit-il, n'est déjà plus qu'une ombre. Puissions-nous oublier même son fantôme et ignorer qu'un jour, pour la honte d'un temps, il exista.
Évidemment, oui, que la police a surveillé de très près le frère, le fameux frère, l'épouse et le fils, qui entre-temps, lui, était parti, lui, alors pour le coup, en Argentine. Là, c'est quand même... Mais alors donc, la police d'Argentine a été informée, on a regardé tout ce petit monde-là de très près, et on ne les a jamais vus faire preuve de richesse. À aucun moment. D'abord, le frère va mourir d'un cancer 1 ou 2 ans après, je crois. Mais alors, bon, après, il y a la veuve, il y a les... À aucun moment, aucun des complices éventuels, ou pas forcément même complices, de Georgette Petiot, qui un jour, en faisant le ménage, dit « Oh, voilà le trésor... » Non, j'exagère. Le trésor de Petiot, ça devait être plus que derrière un placard. Hein. Mais à aucun moment, ces gens-là ne sont convaincus de profiter du magot. Donc le magot a été bel et bien caché par Petiot, ce qui nous ramène à tous ceux qui vont vouloir essayer de faire des trous dans l'hôtel de la rue Le Sueur pour essayer de le retrouver. Vous pensez qu'un pervers malin comme tout, comme Petiot, a dû cacher ça à un endroit absolument incroyable.
Il y a encore des personnes qui cherchent. Ça fait partie de ces choses qu'on imagine exister quelque part.
Agnès Masson.
Certains ont même essayé de contacter la famille. Donc, il avait effectivement un fils né en 1928, Gerhard, qui s'est exilé en Argentine et qui a changé de nom. Donc, je pense qu'on a un peu perdu sa trace.
On se demandait s'il restait des... Justement,
alors, probablement, il reste des descendants.
En fait... Je crois que c'était l'année dernière, on a reçu deux dames qui venaient du Brésil.
Sarah Bouillon-Kessler.
Qui tournaient un petit peu en rond autour de l'accueil et qui avaient l'air de vouloir demander quelque chose, en fait, sans oser. Puis elles m'ont interrogée sur la prescription en France, dans les cas de descendants de grands meurtriers. Et en fait, elle m'a avoué que son nom, c'était Petiot. Donc vraiment, elle est brésilienne, hein, mais elle porte le nom de Petiot. Donc elle s'est mariée avec un descendant de Marcel Petiot. Et notamment, quand elle se rend en France, elle dit « ça nous est arrivé en France d'être mal servis ou qu'on nous fasse référence à ça avec beaucoup de méfiance, en fait, peur limite. »
Dans la cellule à 4h45, entre le directeur de la prison, l'avocat général Dupin, le juge d'instruction Goletti et maître Florian. C'est Dupin qui secoue Petiot qui dort avec une tranquillité totale. Qui dit « Petiot, soyez courageux, c'est l'heure. » Petiot qui se réveille et qui dit « Tu me fais chier !» Et l'avocat général, qui n'a peut-être pas très bien compris, qui dit « Petiot, avez-vous une déclaration à faire ?»« Je l'ai déjà faite, mais je le répète, tu me fais chier !» Alors il se lève, très tranquille. Reconnaît Florian. « Comment allez-vous, mon cher ?» Il s'habille, s'assied à une table pour écrire une dernière lettre à sa femme et à son fils, et puis l'aumônier arrive, l'abbé Berger. « Non, pas de curé. Vous m'excuserez, monsieur l'abbé, je ne crois à rien. Pourtant, docteur... Votre femme que j'ai vue hier a souhaité que vous soyez béni. Ah bon, alors faites, mais vite. » Puis ils partent dans le long couloir.
Il avait des yeux qui jetaient le feu.
Archivina.
Il impressionnait tout le monde et personne n'aimait à bavarder avec lui.
1960.
Il avait peur de mourir. Et pourtant, le jour de son exécution, il souriait à tout le monde, à toutes les personnes présentes, alors qu'on le conduisait à l'échafaud.
Vous en avez gardé le souvenir ?
J'en ai gardé un souvenir. Il était aussi à l'aise que dans un salon.
On est convaincu de la culpabilité de Petiot. On est convaincu de sa folie. Mais est-ce que folie vaut responsabilité? Il y a beaucoup de psychiatres qui ont dit attendez, j'ai déjà. Je crois que c'est le docteur Gilbert Ballet, pareil, c'est les psychiatres de la fin du 19e siècle, hein, qui s'indignaient et qui disaient attendez. J'ai déjà beaucoup de mal, d'un point de vue médical, à dire qui est fou et qui ne l'est pas. Mais si vous me demandez s'il est responsable, je voulais dire, coupable, vous savez, vous-même, ou pas, ça n'est plus de la médecine, c'est de la métaphysique, dit Ballet.
Sur les faits qu'on lui reproche, ils n'ont pas été réalisés pour des raisons délirantes. Il ne s'est pas senti persécuté par les personnes qu'il a tuées. Il ne s'est pas senti persécuté au sens d'une persécution délirante. Hein. Et ce n'est pas donc la raison pour laquelle il les a tués. Il les a tués pour des raisons torpides, cupides, et qui étaient parfaitement organisées. Donc on ne peut pas imputer son acte à un trouble mental de type aliénant, c'est-à-dire le sortant de la réalité. Il est bien dans la réalité lorsqu'il accomplit ses actes. Par ailleurs, il est dingue. Bien sûr qu'il est dingue, c'est-à-dire c'est incroyable ce qu'il a pu réaliser ce qu'il a pu en comprendre et ce qu'il a pu en dire, surtout ce qu'il a pu en dire, l'attitude qu'il a pu avoir par rapport à ce qu'il a été reproché. On le voit sourire, sa dernière parole est amusante, enfin elle est amusante, elle est incroyable, mais elle se veut amusante, hein. Au moment où il va être guillotiné, il dit « écoutez, ne regardez pas, ça sera pas très agréable pour vous, j'aimerais que vous ayez une autre image, un autre souvenir de moi ». Bon, il reste dans le personnage, mais jusqu'à la dernière seconde. Mais ce n'est pas une perte avec la réalité.
Je crois qu'il y a une erreur absolument fondamentale qu'on commet souvent, par exemple dans le cas de Marcel Petiot, qui serait de penser que c'est un immense malade mental et que, ma foi, tout le monde s'est trompé, qu'il aurait dû aller à l'asile et ne pas être jugé. C'est une erreur fondamentale. Les tueurs en série, les grands criminels, vous pensez quoi ? Vous pensez que c'est des gens qui ont une vie équilibrée, une femme, des enfants, une pensée claire, des satisfactions dans l'existence, comme vous et moi ? Non, c'est souvent des grands tordus, des gens qui ont des pathologies de la personnalité, des troubles du caractère, des histoires extrêmement complexes, qui ont des personnalités qui ont échappé de justesse à la maladie mentale pour se réorganiser sur un mode pervers. Dire que Marcel Petiot aurait dû, eu égard à l'énormité de ses crimes échappés à la justice, me paraît être une aberration totale. L'idée que tout ça serait le simple symptôme d'une maladie mentale est une absurdité absolue.
C'est un tueur en série solitaire avec un projet froid dont on ne connaît pas complètement aujourd'hui tous les tenants et aboutissants. La folie, l'antisémitisme, l'appât du gain, sans doute les trois mélangés, hein. Il y a quelques années, j'ai vu des lettres du docteur Petiot, enfin des écrits antisémites du docteur Petiot écrits en prison qui n'ont pas été versés au débat. On me les a proposés comme conservateur du musée du barreau de Paris. Pour des tas de raisons, je ne les ai pas achetés parce qu'il me semble très difficile de dire que l'argent de mon musée sert à acheter des écrits antisémites, même si ce sont des pièces d'histoire. Mais enfin, le prix qu'on m'en demandait était quand même très élevé. Mais c'est des choses qui n'ont pas été versées dans les débats, qui ne font pas partie de l'histoire judiciaire officielle.
Des écrits
de délire antisémite de Petiot. Il y en a, visiblement, il y en a qui circulent, quoi. Voilà. Mmh. Donc, c'est des écrits qu'il a fait en prison. Parmi, il a écrit la martingale, mais en prison, il a écrit la haine qu'il avait pour les juifs.
Avec Claude Quettel, historien, Emmanuel Pierrat, avocat à la cour, Magali Baudon-Bruzel, psychiatre et experte, Daniel Zaguri, psychiatre et expert, Agnès Masson, chef du service de la mémoire et des affaires culturelles, Anne-France Serigliani, Sarah Bouillon-Kessler, Saglia Benjebourg, du musée de la préfecture de police de Paris. Archivina Véronique de Saint-Pastou, documentation Anne-Lise Signoret, lecture des textes Yannick Chouara, prise de son Romain Luquins, mixage Pierrick Charles, attaché d'émission Sylvia Fabre, coordination Christine Bernard. C'était l'affaire Petiot, l'énigme de la folie humaine. Un documentaire de Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Je vous emmène à Vienne, mais pas forcément pour danser la valse. Mais c'est une autre histoire.